Bonjour à chacun et chacune. Alors, pendant les deux dernières prédications que j'ai eu l'occasion de faire, nous avons exploré ensemble notre rapport au péché. C'était grosso modo le thème qu'on a abordé. Est-ce que la rencontre avec le Christ vient changer en nous ? Alors, on avait fait un constat assez dur pour l'humanité, une humanité qui vit éloignée de Dieu, qui fait le bien, c'est vrai, mais qui fait aussi le mal, ce mal qui sépare l'être humain de son Dieu, ce mal qui conduit les humains vers la mort. Mais nous avions vu également quand Jésus-Christ, ce regard assez désespéré, change radicalement. On avait vu quand Jésus-Christ, Dieu devenu un homme, reçoit à notre place la sanction que méritaient nos propres fautes, et si nous l'acceptons tout simplement comme Seigneur et Sauveur, eh bien il vient nous transformer de l'intérieur, il nous change totalement, il nous donne une nouvelle identité, et là je vais voir s'il y en avait quelques-uns il y a deux semaines qui ont bien suivi, il nous donne une nouvelle nature, c'est bien, ça va, il y en a qui ont suivi. Il nous donne une nouvelle nature, parce que nous étions pécheurs par nature, le péché était naturel pour nous. Mais après avoir été sauvés par Dieu, pardonnés, justifiés en Christ, Dieu nous déclare saints, irréprochables et sans faute devant lui. Et c'est ça notre nouvelle nature. Nous ne sommes plus pécheurs par nature, nous sommes saints, justes, purs. Et tout notre être, tout comme l'Esprit de Dieu en nous, tout nous pousse alors à rechercher ce qui est saint, juste et pur. Rechercher la cohérence avec qui nous sommes devenus. Alors bien sûr, nous ne devenons pas parfaits. Le péché reste tout de même une possibilité pour nous. Nous ne péchons plus par nature, mais nous pouvons toujours pécher par choix. Mais ce choix du péché devient pour nous contre nature. Il va à l'encontre de ce que nous sommes devenus. Il nous déchire intérieurement. Il nous fait ressentir de la culpabilité, de la tristesse, de la honte. Il nous blesse dans ce que nous sommes, dans qui nous sommes. Nous sommes devenus par nature saints, irréprochables et sans faute, et le péché vient nous blesser dans qui nous sommes. Et il nous blesse également dans notre relation à Dieu qui a été restaurée. C'est pourquoi demander pardon à Dieu reste toujours nécessaire lorsque nous péchons par ce choix contre nature pour restaurer notre relation à lui et nous restaurer nous-mêmes. Et alors Dieu nous pardonne, Dieu nous rétablit dans sa justice, Dieu ne nous tient pas rigueur. Il ne passe pas son temps à nous rappeler nos échecs, à nous rappeler nos faiblesses, nos désobéissances, toutes ces fois où nous l'avons déçu, où nous l'avons blessé, où nous l'avons trahi, passe pas son temps à nous les rappeler. À la place, non, Dieu continue à nous accueillir et à nous déclarer saints, irréprochables et sans faute devant lui. Et ce regard de Dieu sur nous-mêmes est vraiment merveilleux. Et ce regard doit devenir notre regard sur nous-mêmes également. Un regard qui nous pousse dans une vie cohérente avec ce que nous sommes, un regard qui nous entraîne avec zèle vers la volonté de notre Père, ce que nous étions a changé. Et tout en nous nous pousse maintenant vers cette vie en Christ qui s'ouvre à nous, vers ce projet merveilleux de Dieu pour nous, vers cette relation extraordinaire avec Dieu et vers la joie de nous mettre à son service, de témoigner de ce que le Seigneur a bouleversé dans nos vies. Tout en nous porte notre regard vers le présent de notre vie à Dieu et vers l'avenir de ses projets, de ses plans et de sa volonté pour nous. Et ça, c'est ce que nous explique l'apôtre Paul en Philippiens 3, versets 13 à 15, où il nous dit « Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, et de ça on va beaucoup en parler ce matin, c'est cette pensée qui doit nous diriger. nous tous qui sommes spirituellement adultes. C'est cette pensée qui doit nous diriger. Paul est spirituellement adulte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça veut dire qu'il sait qui il est en Jésus-Christ. Et il sait donc aussi ce qu'il est appelé à devenir. Il n'est pas comme un enfant dans la foi, qui se référerait surtout à ses parents spirituels. C'est une étape, peut-être, mais il n'en est plus là. C'est pas non plus un ado dans la foi, qui se cherche, qui hésite, qui se débat un petit peu pour savoir qui il est vraiment. Bon, Paul est spirituellement adulte. Et ça, ça dépend pas de notre âge. Paul est spirituellement adulte, il sait qui il est en Jésus-Christ. Il n'est plus un pécheur par nature. Mais en Christ, il devient enfant de Dieu que le Seigneur déclare saint, irréprochable et sans faute. Un adulte dans la foi qui désire vivre en cohérence avec ce qu'il est, en cohérence avec la volonté de Dieu pour lui. Alors Paul nous dit qu'il oublie ce qui est derrière lui. Il oublie cette nature passée qui n'a plus rien à voir avec son présent et il tend de tout son être, de tout ce qu'il est vers ce Dieu et ce qu'il désire pour lui maintenant. Paul a changé de nature et il nous dit qu'il veut oublier le passé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Est-ce que Paul est en train de nous parler d'oublier ses erreurs ? Oublier ses fautes, oublier sa vie de pécheur avant, oublier tout le mal qu'il a pu commettre. Est-ce que c'est de ça qu'il parle ? D'ailleurs, est-ce que c'est seulement possible ? Oublier toutes ces choses pour lesquelles j'ai honte, tous ces actes que je regrette au fond de moi, est-ce que je peux les oublier ? Et est-ce que je dois les oublier ? Est-ce que c'est de ça que Paul nous parle ? Eh bien, ce matin, au travers justement de la vie et du témoignage de Paul, nous allons voir que nous ne pouvons pas oublier nos actes passés et que nous ne devons pas les oublier. Mais nous verrons alors aussi pourquoi Paul nous parle d'oublier. Nous allons explorer la vie un petit peu de ce grand personnage biblique qui est l'apôtre Paul, un serviteur de Dieu incroyable, je pense. Il est au moins dans le top 3 des plus grands serviteurs de Dieu dans la Bible. Je pense qu'il peut concurrencer Moïse et Élie. Et pourtant, c'est un homme qui porte également un très très lourd passé. Et nous allons lire tout d'abord, on va lire plusieurs textes pendant cette prédication, tout d'abord en acte 8, les versets 1 à 3. Et nous lisons acte 8, versets 1 à 3. « Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. » À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Et un peu plus loin, au chapitre 9, les versets 1 et 2, Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Paul, qu'on appelait Saul à l'époque, c'est bien de lui qu'on parle, Paul a grandi dans la plus pure tradition juive de son époque et il était convaincu de servir Dieu et pour ça il a voulu lutter de toutes ses forces contre les disciples de ce fameux Jésus de son époque. Il s'est lancé dans une lutte acharnée contre les disciples du Christ. Paul avait dédié sa vie à Dieu. Il avait mis tous ses efforts à chercher sa volonté et à lui obéir. Mais ici, il est comme aveuglé. Il ne reconnaît pas en Christ ce Dieu qu'il veut pourtant tellement servir. Paul n'en a pas conscience à ce moment-là de sa vie, mais là, il est l'exemple même d'un pécheur par nature. qui fait le mal sans le savoir. Et même s'ils croient servir Dieu et faire le bien, eh bien, ils s'enfoncent progressivement dans le péché. Mais le Seigneur a un plan fabuleux pour la vie de Paul. Nous, on connaît la suite de l'histoire, c'est un peu de la triche, mais Dieu ne va pas l'abandonner à ce péché qui le ronge et qui le condamne. Et on continue notre lecture en acte 9 au verset 3. Paul se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne mut. Un peu plus loin, au verset 17, toujours de ce chapitre 9 des Actes, « Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Paul prend conscience d'une manière terrible qu'il est en train de persécuter son Dieu. Ce Dieu qu'il veut servir de tout son cœur, il était aveugle spirituellement. Il ne reconnaissait pas Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, son état spirituel se voit maintenant dans son corps. Le voici aveugle, tout simplement. Et il passe 3 jours dans le noir, sans manger, sans boire. 3 jours à ruminer, 3 jours à culpabiliser. C'est pas facile de se retrouver face à face avec nous-mêmes, de prendre pleinement conscience de notre condition de pécheur, quand on croyait pourtant être quelqu'un de juste. Recevoir brutalement la conviction de notre culpabilité devant Dieu. Lorsque ça arrive, il y a tellement de choses qui se brisent, tellement de certitudes sur nous-mêmes qui s'effondrent. On a mal, on s'en veut. On est déçu, déçu surtout de nous-mêmes. Et on comprend pourquoi le mot humilité est un cousin du mot humiliation. Paul en passe par là, à cet instant précis de son histoire. Mais Paul ne reçoit pas de Dieu un châtiment à la hauteur de ses fautes et de ses crimes. À la place, il reçoit ce que le Seigneur accorde à tout pécheur qui se repent avec sincérité, son pardon gratuit et immérité, c'est-à-dire sa grâce. Dieu sort Paul de son obscurité, il le sort de son auto-apitoiement, il lui redonne la vue, il le ramène vers sa lumière, vers sa vérité, sa volonté, son salut en Jésus-Christ. Paul reçoit pleinement ce pardon et cette vie nouvelle. Il devient un être nouveau, non plus un pécheur par nature, mais un enfant de Dieu, déclaré par son Père, saint, irréprochable et sans faute. Paul prend conscience de tout ça. Il l'accepte. Il marque ça par le fait de passer par le baptême et de témoigner de sa foi. Et il se met, alors, nous dit le texte, tout de suite à servir Dieu, à témoigner, à proclamer que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu venu pour sauver les humains. Paul sait qu'il a changé. Il n'est plus le même et il désire vivre en cohérence avec ce que le Seigneur a fait de lui. Alors il se met au service de Dieu et il témoigne de ce que le Seigneur a fait pour lui, mais aussi pour le reste de l'humanité. Et c'est ça qu'il fera sans s'arrêter jusqu'à la fin de sa vie. Et on a vraiment l'impression qu'en 3 jours à peine, Paul tire un trait complet, total, sur sa vie passée. On a l'impression que brutalement, Paul oublie tout ce qu'il avait pu faire avant et qu'il se tourne de tout son être vers ce que Dieu désire pour lui. On a l'impression que Paul, lui, a réussi à oublier son passé en 3 jours. Eh bien, cette impression, elle est fausse. On ne peut pas oublier son passé. Personne ne peut oublier son passé. Et il n'est pas bon d'oublier qui nous étions. Et l'apôtre Paul ne fait pas exception. Jamais dans sa vie, Paul ne va oublier ce qu'il a pu faire. Toute sa vie, de manière régulière, il va se rappeler les actes mauvais qu'il a pu commettre. Et comme Paul est l'auteur de pas mal de lettres présentes dans la Bible, eh bien on trouve dans ses épîtres des rappels réguliers de ses actes passés, par Paul lui-même. Par exemple, dans la toute première épître que l'apôtre va écrire, la lettre aux Galates, au chapitre 1, au verset 13, il commence sa première épître en disant « Vous avez entendu parler de ma conduite passée, à l'époque où je militais dans le judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme j'ai persécuté l'Église de Dieu dans le but de la détruire. » Lorsque Paul écrit cette lettre, il y a déjà quand même un peu d'eau qui a coulé sous les ponts, pas mal d'années qui sont passées. Paul a même déjà fait un gros voyage missionnaire, il a participé à implanter des églises dans plusieurs villes différentes, mais il se rappelle toujours ses actes passés. Et il commence même sa première épître par nous le rappeler également. Un autre exemple, lorsque Paul désire annoncer la bonne nouvelle du pardon de Dieu à une foule à Jérusalem en Actes chapitre 22, au verset 3, voici comment il commence son témoignage. Je suis juif. Je suis né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé ici à Jérusalem. C'est Gamaliel qui fut mon maître. Il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres, et j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort ce qu'on appelle la voie, en faisant enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le conseil des responsables du peuple peuvent témoigner que je dis vrai, car c'est d'eux précisément que j'avais reçu des lettres de recommandation pour nos frères. Je suis alors parti pour Damas, bien résolu à faire enchaîner et à ramener à Jérusalem afin de faire punir tous les adhérents de cette voie que je trouverai là-bas. » Paul veut simplement annoncer le salut en Jésus-Christ à cette foule à Jérusalem. Mais ce qui est le point de départ de son témoignage, ce sont les actes mauvais qu'il a pu faire avant de rencontrer son Sauveur. Alors il se rappelle ces actes terribles et il en parle avec des mots très durs. Il n'édulcore pas, il n'adoucit pas la gravité de ce qu'il a pu faire lorsqu'il était encore un pécheur par nature. Un dernier exemple, en Actes chapitre 26, lorsque Paul explique sa foi à un gouverneur romain et à un roi de la région de Palestine, encore et toujours, il débute son témoignage en rappelant tout le mal qu'il a pu commettre. Et nous lisons en Actes 26, au verset 9, « Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem, j'ai jeté en prison, en vertu des pouvoirs que j'avais reçus des chefs des prêtres, un grand nombre de ceux qui appartenaient à Dieu. Et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. » Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir, essayer de les contraindre à renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer dans les villes étrangères. » Des mots très durs. Et pourtant, entre le moment de sa conversion et ce témoignage en Actes 26 devant ce gouverneur romain, est-ce que vous savez combien d'années se sont écoulées ? 25 années. 25 ans se sont passés. Et pourtant, Paul continue à se rappeler ses fautes, à un point tel que le récit brutal de ses péchés sert toujours de point de départ à son témoignage. Alors, je ne cherche pas à vous déprimer ce matin, vous inquiétez pas, bien au contraire, tout ça nous montre à quel point le pardon de Dieu est bien plus profond que la pensée des êtres humains. Lorsque Dieu pardonne, il nous déclare de manière définitive juste, saint, irréprochable et sans faute devant lui. Et ce regard de Dieu sur nous doit devenir le nôtre. Pour devenir des adultes dans la foi, il nous faut être totalement convaincus de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus des pécheurs par nature, nous n'avons plus à vivre selon notre ancienne manière de faire, mais nous sommes des enfants de Dieu qui doivent maintenant vivre en cohérence avec ce que Dieu a fait de nous. Et quand Paul nous parle d'oublier, il ne parle pas de nos actes, il ne parle pas de nos vies, il ne parle pas de notre passé. Il parle de notre ancienne nature. Il parle de tout ce qui faisait notre vie, de tout ce qui avait du prix à nos yeux, de tout ce qui faisait notre identité, de ce qui nous définissait, ce qui guidait nos pensées, nos choix, nos actes. Tout ça n'a plus rien à voir avec nous. Et désormais, il nous faut tendre de tout notre être vers ce qui découle de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Devenir ce que Dieu a fait de nous, des enfants de Dieu, saints, irréprochables et sans faute, et qui ont à cœur de se mettre au service de la volonté de leur Père, qui ont à cœur de témoigner, comme Paul, de ce miracle que le Seigneur a fait pour nous. Paul ne parle pas d'oublier nos actes, mais lorsqu'il se rappelle ses actes passés, il ne le fait pas non plus pour replonger dans un sentiment de culpabilité. Il ne rumine pas, il ne broie pas du noir. Ce n'est pas un poids sur lui. Mais à chaque fois, dans tous les exemples que nous avons lus, quel est le point commun? Pourquoi Paul rappelle-t-il ses actes passés? Pour témoigner. Pour témoigner de la grâce immense de Dieu dans sa vie. Pour témoigner du changement profond que le Seigneur a opéré en lui. Pour montrer au monde qu'il n'est jamais trop tard. Que Dieu aime profondément chaque être humain, quel que soit notre passé. Nous sommes tous appelés par Dieu à venir recevoir son pardon, recevoir une nouvelle identité et recevoir une vie nouvelle et éternelle auprès de lui. Paul rappelle son passé dans son témoignage pour montrer que les changements qui ont eu lieu dans sa vie ne viennent pas de sa volonté ou de ses efforts ou de ses choix, mais qu'ils sont un miracle réalisé par le Seigneur. Oui, à chaque fois qu'une personne donne sa vie à Christ, Dieu réalise le plus beau miracle qui puisse exister. Il ramène vers sa vie une personne jusque-là condamnée. Et je ne suis pas ici depuis très longtemps avec mon épouse, ça fait à peine un mois et demi qu'on est arrivé sur Angoulême. Alors, on ne se connaît pas encore très bien. Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre passé. Mais si jamais ce passé vous ronge, s'il vous pèse, s'il est lourd, n'essayez pas de l'oublier. Et n'essayez pas de vous pardonner à vous-même. Vous ne pouvez pas oublier et vous ne pouvez pas vous pardonner. Mais tournez-vous vers le Christ qui, lui, pardonne. Tournez-vous vers le Christ qui veut faire de vous une personne nouvelle. Tournez-vous vers le Christ qui veut changer votre nature profonde. Tournez-vous vers le Christ qui veut changer votre vie. Et prenez alors conscience de qui vous êtes devenu. Je le répète encore, mais c'est important, non plus un pécheur par nature, mais un enfant de Dieu. Et de tout votre être, désirez vivre en cohérence avec ce cadeau merveilleux que le Seigneur vous a fait. Votre passé restera là, dans votre mémoire. Ne l'oubliez pas. Ne le ressassez pas non plus. Et dorénavant, comme pour Paul, vous pouvez même mettre ces souvenirs douloureux au service de votre Père, si jamais il vous le demande. Remettez-les entre ses mains. Et s'il le désire, mettez-les à son service, pour que dans votre témoignage et dans votre vie transformée, vous rendiez gloire à la puissance du Seigneur, à la grandeur de son amour et à la profondeur de son pardon. Si Paul entrait dans notre église ce matin, qu'est-ce qu'il pourrait dire de nous ? Est-ce qu'il pourrait dire, et je l'espère, « Voilà des adultes dans la foi. Voilà des personnes spirituellement adultes, des personnes qui savent qui elles sont devenues en Jésus-Christ et qui le mettent en pratique dans leur vie. Voilà des personnes qui se savent être enfants de Dieu, libérés par leur Père et qui se mettent au service de ce Père. » Est-ce que Paul pourrait dire ça de nous ? Je l'espère de tout mon cœur. Ou alors est-ce qu'il serait obligé, peut-être encore, de nous parler comme à ceux de l'église de Corinthe, auxquels il écrivait ces quelques mots. En 1 Corinthiens, il écrivait « En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants dans la foi. » C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. J'espère que ce n'est pas ce que Paul serait obligé de nous dire. Soyons des adultes dans la foi, des adultes qui savent qui ils étaient, mais qui savent qui ils sont devenus. Des adultes dans la foi qui rendent gloire à Dieu pour ce cadeau incroyable qu'il a fait pour nous. Des adultes dans la foi qui veulent de tout leur être pouvoir magnifier Christ dans leur vie. Amen.